Messieurs, dames, bonsoir. Merci de rester à l'écoute du studio Kalangou. Il est 18h, c'est l'heure du journal en français au micro Diallo Mariama Kenda. Bienvenue à tous. Voici nos titres. Les autorités communales de la région de Niamey, accompagnées de militaires et paramilitaires, étaient ce matin à Soudouré pour dégager d'urgence le passage des eaux de ruissellement attendues dans les toutes prochaines heures. Vous entendrez à ce sujet le président de la délégation spéciale de Niamey. Et dans la partie magazine de ce soir, le ministre chargé de la gestion des catastrophes nous fera le bilan complet des dégâts causés par les eaux de pluie du début de la saison à la date du 6 août 2018. Les autorités communales de la région de Niamey, flanquées des éléments militaires et paramilitaires, étaient ce matin sur le site des sinistrés au village de Soudouré, frappé lundi par une inondation. L'objectif de cet important déplacement est de mener des actions de prévention après l'alerte donnée par les services de la météorologie qui prévoit encore des pluies sérieuses. Le président de la délégation spéciale de Niamey donne d'autres précisions sur d'autres actions.
Nous avons reçu l'information de la météo. Dans les 24 heures, nous allons enregistrer encore des fortes pluies. C'est pour cela que rapidement, nous avons demandé l'appui des FDS, de Tondebia, mais aussi de la gendarmerie, qui sont venus nous assister pour enlever tout ce qu'il y a, troncs d'arbres, morceaux, tout ce qui peut entraver l'écoulement normal des eaux vers le fleuve, afin d'éviter, d'anticiper, en tout cas, tout problème d'inondation de ces populations. Nous sommes en train de renforcer le canal d'évacuation des eaux de pluie. Nous sommes en train de mettre ces sacs-là pour protéger au maximum le village. Nous avons été accompagnés et soutenus par les sapeurs-pompiers qui sont en train de faire remarquablement un bon travail pour sécuriser et mettre à l'abri ces populations sinistrées et même celles qui ne le sont pas. Nous avons attiré leur attention, ceux qui habitent dans les maisons précaires, en mauvais état, en cas de forte pluie, de ne pas rester dans ces maisons-là.
Mokhtar Mahmoudou, le président de la délégation spéciale de Niamey, Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement était dans la région d'Agadez cette semaine où il a constaté l'état et le fonctionnement des adductions d'eau potable. À l'occasion, ce sont 5 départements qui ont été visités. Le constat du ministre Issoufou Katangbe au micro de Moussa Mamane.
À Ingal, la quantité d'eau traitée est insuffisante pour couvrir les besoins de la population et du cheptel en période de haute chaleur et pendant les festivités de la cure salée. De nombreuses fuites d'eau dans le réseau de distribution. Le coût lié au fonctionnement du dispositif de traitement d'eau est très élevé. À Agadez, nous avons constaté de nombreuses fuites dans le réseau. Ce champ de captage peut être menacé à moyen terme de pollution. À Adervisinat, les besoins sont entièrement couverts. Un nouveau forage est en voie d'être réalisé. L'alimentation en eau de tyrosérine se fait par la mise à disposition de 750 mètres cubes d'eau quotidiennement par la Sonichère à la mairie qui en assure la vente auprès de la population. À Arlit, nous avons fait le constat suivant. De nombreuses fuites d'eau, la sécurisation des installations n'est pas effective. Le groupe électrogène est en panne. L'étape différente, le réseau est surchargé par les branchements particuliers et privés.
Vous venez d'entendre le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Issoufou Katangbe. Le Niger ambitionne de se positionner en leader dans le secteur des cuirs et peaux. C'est une déclaration du ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé qui a visité ce matin le centre artisanal de Maradi, celui de la collecte et du traitement des cuirs. De traitement des cuirs et peaux. Le ministre Sadou Seydou est au micro de Mohamed Maman, notre correspondant régional.
S'il y a un secteur dans lequel le Niger peut se positionner à l'international, c'est bien le domaine des cuirs et peaux. Dans la sous-région, nous faisons parmi les principaux producteurs de peaux. Et il suffit seulement de développer l'industrie de traitement de ces articles pour nous positionner en exportation. Actuellement, nous ne sommes pas au bout de la chaîne. Les productions se font à mi-parcours, sauf que les produits que nous produisons produisons ici sont utilisés comme matière première pour d'autres usines. Notre souhait c'est de développer ces industries pour que les produits qui sortent soient des produits définis, destinés uniquement à la fabrication d'articles, au lieu d'exporter des produits semi-finis. Et nous sommes venus encourager ces promoteurs qui ont investi près de 2 milliards et qui ne sont pas au bout de leur investissement parce qu'ils croient en leur activité. Nous les avons appuyés à travers le projet des nouveaux marchés en Inde et ça vient de se concrétiser. Ils ont des commandes qu'ils viennent de livrer pour l'Inde qui se situe à des milliers de pots.
Le ministre du Commerce, Sadou Seydou. À Agadez, une formation est organisée depuis lundi par le Rotable au profit des communes d'Ingal, Arlit et d'Agadez-Ville. C'est sur le calcul des redevances minières et l'analyse des rapports à la transparence dans la gestion des ressources exploitées. Abdourahmane Mouli, maire de la commune urbaine d'Arlit, qui participe à l'atelier, s'exprime sur le non-respect des engagements par l'État et l'usage des redevances.
Depuis 2014-2015, les redevances minières ne sont plus reversées. En 2016-2017, nous avons fait le point, nous étions à 13 milliards d'arriérés au titre de la région d'Agadez, qui n'ont jamais été reversés. Mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que les sociétés s'acquittent de leurs redevances au niveau de l'État. C'est l'État qui ne rétrocède pas. Et même les années antérieures, la rétrocession, elle n'est pas effective. C'est fait donc à moitié selon les disponibilités du trésor, puisque c'est une somme que les sociétés minières, elles s'acquittent de leurs devoirs en payant l'intégralité de leurs redevances minières sommaires. C'est mis dans notre budget national. Nous avons 15% qui sont rétrocédés par l'État aux collectivités de la région où se font le travail. 90% des redevances minières sont conçues pour faire des investissements, créer les écoles, les hôpitaux. Les 10%, c'est pour le fonctionnement et le suivi des réalisations qui sont faites. Donc ce n'est pas l'argent avec lequel on va payer les salaires ou les maires vont payer des carburants, non.
Un propos recueilli par Anissi Karim. Après une caravane de sensibilisation et de dépistage gratuit des hépatites à travers la ville de Niamey, une conférence publique a été organisée hier après-midi à Niamey sur la prise en charge de la maladie. Le conférencier, Dr Madougou Boubacar, a saisi l'occasion pour interpeller l'ensemble des acteurs pour une meilleure prise en charge des hépatites.
On a parlé de comment diagnostiquer, dépister ces maladies, c'est-à-dire comment savoir si on a la maladie ou pas. Dans un troisième temps, on a parlé un peu des possibilités de traitement qu'il y a en mettant l'accent sur deux choses. La première, c'est le bilan, c'est-à-dire les examens qu'il faut faire avant que la personne puisse être mise sous traitement. Et le deuxième aspect, les médicaments dont il faut disposer pour traiter ces maladies. Pour le virus de l'hépatite B, pour le moment, les médicaments sont très efficaces, mais il faut les prendre pendant des années. Pour l'hépatite C, les médicaments qu'on utilise aujourd'hui permettent aux jeunes de guérir dans 95% des cas après 3 mois de traitement. Le dernier aspect de la conférence, c'est interpeller un peu tous les acteurs, bien sûr les personnels de santé, les malades, le ministère de la Santé, les partenaires, pour que chacun s'implique pour qu'on trouve une solution à ce fléau qui continue à faire beaucoup de ravages, surtout au sein des jeunes, parce qu'on l'a vu, ce sont surtout les jeunes qui sont atteints par cette maladie.
Propos recueillis par Mokhtar Amadou. Comme un peu partout au Niger, la ville de Tanout, située dans la région de Zinder, connaît aussi les coupures fréquentes d'électricité, un facteur qui a un impact négatif sur les activités économiques des habitants. Comment est vécue cette situation à Tanout? Élément de réponse dans ce reportage réalisé à Tanout par notre reporter Bakissa Amido.
Les populations de Tanout font face à des coupures d'électricité de plus en plus récurrentes qui freinent certaines activités génératrices de revenus. Une situation que déplorent les habitants de cette localité.
Nous sommes dans l'obscurité il y a 7 ans. Maintenant, tu ne peux même pas laisser ta moto dehors, quel qu'en soit son état, à cause de ce problème d'électricité. La conservation des produits est difficile.
Vraiment, le problème d'électricité est réel. On nous donne un peu d'électricité et on coupe. Quand tu vends tes produits, tu vas faire plusieurs jours sans électricité et déjà ce que tu as vendu, le temps de ramener, tu l'as dépensé. Ces coupures intempestives touchent également le secteur de la santé, laissant des malades dans la chaleur et compromet le traitement d'autres patients, nous a confié un autre habitant de Tanout.
Quand tu pars à l'hôpital, la situation est triste. À l'heure où je vous parle, j'ai laissé ma sœur, elle vient de subir une césarienne et elle a eu un garçon. Il y a également une autre femme malade à qui ils ont mis de l'oxygène et il y a eu une coupure d'électricité.
Face à ces coupures d'électricité aux conséquences fâcheuses, certains habitants de Tanout proposent des solutions.
La solution, c'est aux autorités de doter la ville de Tanout d'un groupe électrogène ou de nous connecter l'électricité à partir de la source.
Pour mieux cerner la cause de ces coupures désagréables de courant, nous avons approché le responsable départemental de la Nigérienne d'électricité de Tanout qui n'a pas voulu s'exprimer.
Reportage signé Bakissa Amidou, lu par Nafissa Adamou. Sirfo, hameau de culture, après une période calme observée à l'occasion du Ramadan, l'orchestre Tal National revient sur scène en annonçant la semaine dernière à Niamey la reprise de ses activités musicales. Une entrée culturelle qui se matérialisera avec la composition d'un nouvel album et des tournées à l'intérieur du Niger, a confié le directeur artistique du groupe Almeida Youssoufou.
C'est le moment de la créativité. Il va falloir créer de nouvelles chansons. On a déjà laissé les autres de côté. Par exemple, un nouveau album, une nouvelle tournée nationale. La guerre est plutôt à l'international. Notre but, nous, l'international, c'est de faire connaître la musique nigérienne. Déjà, on est émis à l'international. Dieu merci. Et je pense qu'on va pas lâcher. Nous, le plus important, c'est de faire connaître la musique. Et le monde aujourd'hui a besoin de la musique qui est dansante. Et on sait que l'international, c'est un orchestre de rock'n'roll.
Vous avez une idée, donc, du nombre de chansons que va contenir cet album?
La plupart du temps, nous faisons plus de 20 chansons dans l'album. Maintenant, on choisit parmi ces 20 chansons ce qu'il faut mettre dans l'album, ce qui a réussi, et pour que l'album soit assez consistant. Donc nous faisons beaucoup de chansons et puis après on choisit, on décide. On a un timing parce que maintenant nous sommes en train de faire la relance. Nous devons penser à l'intérieur du pays. On est toujours à Niamey, on n'arrive pas à bouger beaucoup à l'intérieur du pays. L'orchestre international, il est national.
Un mot de football, le MENA Cadet est à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. L'équipe nationale de football des moins de 17 ans joue aujourd'hui 9 août un match amical contre l'équipe du Mali et le 12 août contre celle du Burkina Faso. Ces matchs amicaux rentrent dans le cadre des préparatifs du tournoi qualificatif de la zone ouest de l'Union des fédérations ouest africaines de football UFOA des moins de 17 ans prévu en septembre 2018. Ici à Niamey. Par ailleurs, l'athlète nigérien Issoufou Sani a décroché la médaille d'or au championnat d'Afrique de triathlon tenu du 1er au 5 août 2018 à Kigali au Rwanda. Cette victoire a permis au Niger de se classer premier sur 7 pays participants. La partie magazine de ce journal à présent consacrée aux catastrophes, consacrées donc au bilan complet des dégâts causés par les eaux de pluie du début de la saison à la date du 6 août 2018, bilan dressé par le ministre chargé de la gestion des catastrophes.
À la date du 6 août, nous avons 49 845 sinistrés pour 6 146 ménages. Nous avons malheureusement enregistré 22 décès. Nous avons également 26 344 têtes de petits ruminants et gros ruminants qui sont décimés. 3 131 maisons effondrées, 3 902 hectares de clôtures inondées, 11 classes et 33 puits effondrés. À cette même date, donc au 6 août 2017, on dénombrait 19 549 personnes sinistrées, 23 pertes en vie humaine et également 2446 maisons effondrées à la même date l'année passée. C'est dire que cette année, ça double. Et effectivement, nous avons prévu dans le plan de contingence qu'il est possible que 170 000 Nigériens soient sinistrés suite à des inondations. Et à cette allure, il est fort possible que ça soit plus que ça. Par rapport donc aux régions, la région la plus impactée, c'est la région de Maradi. Maradi a enregistré 19 283 personnes sinistrées. Deuxième, c'est la région donc de Diffa, avec 9 064 sinistrés. La troisième région, c'est la région de Zander, avec 6 798 personnes sinistrées. La quatrième, c'est la région de Tawa, avec 6 705 personnes sinistrées. La cinquième région, c'est Niamey, avec donc près de 2000 sinistrés. Au niveau de la ville de Tawa, par exemple, la pluie du 15 au 16 nous a fait enregistrer 323 maisons effondrées en une seule nuit. Les besoins de ces populations sinistrées que j'ai annoncées à date sont 6262 abris, 307 tonnes de céréales, 31 tonnes d'huile, 31 tonnes de sucre et 15 tonnes de sel. Ça, c'est les besoins exprimés. En ce qui concerne les vivres, le gouvernement a couvert à 100% à date les besoins en vivres de ces populations sinistrées-là. Ce qu'il faut, c'est la prévention. L'étude par rapport à la gestion des catastrophes faite par le système des Nations Unies a démontré qu'en mettant $1 dans la prévention contre une catastrophe, vous économisez $7. Le gouvernement a opté pour cela. C'est des points de repère que nous sommes en train de préparer à mettre en place avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du CRIUS. Nous sommes en train d'expérimenter donc des postes de contrôle qui vont permettre déjà à travers le satellite d'avertir à 2-3 heures de temps avant que l'eau n'arrive dans le village qu'il y a telle force d'eau qui est en train de couler sur tel courrier. Et ça, ça va permettre donc de prévenir la population. C'est parce qu'il surprend qu'il y a beaucoup de dégâts.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.